Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Louis XIII de Jean-Christian Petit-Fils est une biographie historique consacrée au roi de France qui régna de 1610 à 1643. L'ouvrage revient sur un souverain souvent éclipsé par Henri IV et Louis XIV et cherche à corriger l'image d'un monarque effacé, soumis à Richelieu ou dépourvu de volonté politique. À partir d'une documentation abondante, l'auteur retrace la construction du pouvoir royal, les tensions de cour, les révoltes nobiliaires, la question protestante et la montée d'un État plus centralisé. Le livre s'inscrit dans le genre de la grande biographie historique, avec une volonté claire de réhabilitation sans renoncer à l'analyse critique. Il intéressera autant les lecteurs d'histoire politique que ceux qui veulent comprendre les ressorts institutionnels et humains de la monarchie française au début du XVIIe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, réhabiliter un roi longtemps réduit à l'ombre d'Henri IV et de Louis XIV. L'un des enjeux majeurs du livre est de rompre avec l'image traditionnelle d'un Louis XIII passif, mélancolique et secondaire. Petit-Fils montre au contraire qu'il s'agit d'un roi doté d'une vraie conscience de son autorité, sensible à la dignité monarchique et soucieux de gouverner. Cette réhabilitation repose sur un travail de contextualisation. Le règne intervient entre deux figures plus célèbres, ce qui a longtemps faussé la perception du personnage. L'auteur insiste sur la cohérence d'une trajectoire politique trop souvent résumée à l'action de Richelieu. En restituant les choix du roi, ses hésitations, ses décisions et ses arbitrages, le livre rend visible une personnalité politique autonome. Cette démarche change aussi la lecture du siècle Louis XIII, n'apparaît plus comme un simple interlude entre deux grands règnes, mais comme un moment décisif de transition vers la monarchie moderne. Deuxièmement, le tandem Louis XIII-Richelieu comme forme de gouvernement, non comme domination ministérielle. Le livre accorde une place centrale à la relation entre le roi et Richelieu, mais sans céder à l'idée simplificatrice d'un ministre tout-puissant. Petit-Fils présente leur alliance comme une forme de gouvernement fondée sur des intérêts politiques convergents, une confiance progressive et un partage des rôles. Richelieu n'est pas décrit comme un substitut du roi, mais comme un instrument de la volonté royale dans la consolidation de l'autorité de l'État. Cette lecture est importante parce qu'elle corrige une vision très répandue de la période, où l'on attribue au cardinal l'ensemble des grandes orientations du règne. Le livre montre aussi que cette association a été instable, marquée par des tensions, des méfiances et des ajustements constants. Comprendre ce tandem permet donc de saisir comment le pouvoir s'exerce réellement à la cour par la négociation, la fidélité personnelle et l'usage stratégique des ministres, plus que par une simple verticalité bureaucratique. Troisièmement, la lutte contre les nobles, les complots et les fragilités de l'ordre politique. Une autre dimension essentielle de l'ouvrage est la tension portée à l'instabilité du royaume. Le règne de Louis XIII est traversé par des conspirations, des révoltes de grands, des intrigues de cour et des affrontements entre factions. Petit-Fils met en évidence le rôle politique de ces crises, qui ne relèvent pas seulement de l'anecdote, mais révèlent la difficulté de construire un pouvoir monarchique stable. Le roi doit composer avec son frère Gaston, avec les ambitions nobiliaires, avec les réseaux de clientèle et avec les résistances locales. Le livre montre ainsi que l'absolutisme ne naît pas d'un décret abstrait, il se forme dans le conflit, l'intimidation, la répression sélective et la mise au pas progressive des forces concurrentes. Cette perspective donne au règne une forte densité historique, car elle fait apparaître les mécanismes concrets par lesquels la couronne tente de s'imposer. L'histoire politique devient alors une étude des équilibres précaires qui fondent l'État. Quatrièmement, la guerre contre les protestants et la consolidation de l'État monarchique. Petit-Fils insiste sur le rôle des conflits religieux et militaires dans la transformation du royaume. Le traitement du parti protestant, notamment le siège de La Rochelle, s'inscrit dans une logique de restauration de l'unité politique du pays et de limitation des pouvoirs autonomes. Le livre ne réduit pas ces événements à une simple opposition confessionnelle, il les replace dans une lutte plus large autour de la souveraineté, de l'obéissance et de l'existence d'un État qui ne tolère plus de contre-pouvoir territorial. Cette approche permet de comprendre pourquoi le règne de Louis XIII compte autant dans la genèse de la monarchie administrative et centralisée. L'auteur relie aussi les guerres extérieures à cette dynamique interne, en montrant que la politique européenne du royaume, coûteuse et conflictuelle, participe à l'affirmation de la France comme puissance. Le lecteur voit ainsi comment le règne articule ordre intérieur, stratégie militaire et construction de l'autorité publique. En dernier lieu, une biographie nourrie par l'histoire de l'homme, du corps et de la vie de cour, le livre ne se limite pas à la politique institutionnelle. Il cherche aussi à faire apparaître la dimension humaine du souverain. Petit-Fils s'attarde sur la santé fragile de Louis XIII, sur sa réserve, sur son éducation, sur sa vie affective difficile et sur sa personnalité plus complexe que l'image du roi triste. Cette approche est importante parce qu'elle explique en partie son rapport au pouvoir, à l'autorité et à la dissimulation, la biographie devient ainsi un outil pour relier les traits individuels au comportement politique. L'intérêt du livre tient aussi à sa manière de restituer la vie de cour. Avec ses tensions familiales, ses dépendances et ses rapports de force permanents, en mêlant histoire du règne et histoire du personnage, l'auteur évite une biographie purement événementielle. Il propose un portrait où la fragilité physique, la discipline morale, la piété, la chasse et le sens du devoir composent un ensemble cohérent, utile pour comprendre comment ce roi a pu gouverner malgré ses limites apparentes. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord aux lecteurs qui veulent comprendre la monarchie française au XVIIe siècle sans se contenter des clichés scolaires. Il conviendra aussi à ceux qui s'intéressent à Richelieu, au début de l'absolutisme, aux conflits religieux et à la culture politique de cour. Son principal intérêt est de proposer une synthèse dense, appuyée sur une documentation abondante, mais écrite dans une langue claire et accessible. Pour un lecteur d'histoire, l'ouvrage offre un double bénéfice, une remise à niveau solide sur le règne de Louis XIII et une réflexion plus large sur la manière dont l'État royal se consolide au milieu de crise. Par rapport à d'autres biographies du même type, il se distingue par sa volonté de réhabiliter le roi sans l'idéaliser, en montrant simultanément ses faiblesses, sa ténacité et son rôle historique réel. Il ne fait pas de Louis XIII un héros simplifié. Il en fait un acteur central d'une transformation politique majeure. C'est cette combinaison entre exigence érudite, clarté narrative et lecture nuancée du pouvoir qui en fait une référence particulièrement utile dans son genre. Si vous souhaitez soutenir Jean-Christian Petit-Fils, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.